stimule la réflexion, nourrit le dialogue. Cube.
C'est une histoire de fou, sincèrement, là, qui a été présentée au tribunal, le cas, le procès de Véronique Manceau. Une histoire que vous avez peut-être vue dans les manchettes, là, je la résume essentiellement. Septembre 2021, fait un souper avec des amis chez elle, consomme avec eux ben, du crack. Et là, dans une espèce de délire psychotique, se met à accuser un homme, M. Méthode, qui est chez elle, ben, d'être un espion. Et là, se met à le battre, le frapper, le séquestre. Le torture, littéralement, lui force à boire du liquide inflammable et autres sévices et finit par le tuer de plusieurs coups de couteau. Et là, dans ce procès-là, on a entendu toutes sortes de témoignages des gens qui étaient là pendant ce souper-là pour essayer de comprendre comment ça a pu se passer tout ça. Et là, le jury est finalement séquestré depuis hier, donc peuvent délibérer entre eux. Mais là, comme ça arrive dans certains procès, à la seconde où le jury est séquestré, les médias ont le droit de commencer à rapporter ce qui a été omis dans le procès. Là. Bref, ce que les jurys n'ont jamais pu voir. Parce qu'il y a de la preuve qui a été écartée. Puis ce qu'on apprend, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de preuves, puis de la preuve importante, qui a été enlevée en raison de bavures policières et de problèmes qui ont été là, donc soulevés dans la démarche des policiers dans cette enquête-là. Pour en parler un peu avec nous, Paul Laurier, ex-policier à la Sûreté du Québec, président fondateur de la firme Vigitech. Bonjour, M. Laurier.
Bonjour.
Est-ce que pour vous, là, puis je vais commencer par une des premières fautes qui a été soulevée, est-ce que c'est une bévue majeure, ça, de se présenter là-bas sur la propriété, comme ça a été décrit, et là, ben, d'aller trouver le cadavre, là, bref, là, de la victime sur place, mais tout ça sans mandat de perquisition dans une résidence? C'est une grosse bavure?
Ben, je vous dirais qu'il y a des arrêts de la Cour suprême qui mettent en garde les policiers de faire des perquisitions quand il y a urgence. Il y a toujours le droit d'entrer, là, ce qu'on appelle la poursuite immédiate ou d'arrêter le crime. Alors là, c'est une question de jugement. Et en fait, on a un juge qui est devant ces faits-là et que lui, il va prendre des décisions. Et il faut. T'sais, le juge Joyer, quand on est dans un procès de meurtre, qu'on est devant aux assises, on est devant des jurés, il faut comprendre que les deux côtés mettent l'artillerie lourde pour faire la preuve parce qu'on doit convaincre des jurés qui sont pas des gens qui travaillent dans le système judiciaire. Cela dit, ça veut pas dire qu'on peut parler de bavure à ce point ici, mais moi je vous dirais qu'il faut attendre le résultat parce qu'il y a toujours... Il y a toujours la possibilité, si on a un verdict d'acquittement, ben d'aller en appel. Puis là, l'appel va être le juge, lui, va être scruté à la loupe sur des arguments de droit. Hein. On peut se rappeler le procès Turcotte, acquitté la première fois parce qu'une mauvaise directive au jury, le juge avait déclaré que il s'était intoxiqué avec l'antigel alors qu'il y a un arrêt de la Cour suprême qui dit. Donc, il y a toujours des étapes de vérification. De pas rentrer, il y a des policiers qui sont, c'est connu, il y a des policiers qui sont plus cow-boys que d'autres. Il y a des policiers qui sont plus directifs que d'autres. Puis, la couronne, elle a à faire la preuve, c'est qu'elle a tout mis la preuve. C'est une réaction en chaîne. Si on dit que vous êtes rentré illégalement, tout ce que vous faites après tombe. Toute la preuve tombe. Et c'est ce que les avocats de la défense vont s'essayer à faire. C'est pas sur le fond qu'ils vont attaquer le problème, ils vont attaquer sur la forme. Ouais. Ils ont trouvé à ce moment-là une faille. Est-ce qu'on a un mandat ou pas? Le juge Daniel Royer, qui est un juge qui est un criminaliste, a plaidé en faveur de la défense. Mais ça veut pas dire. Il faut attendre le résultat du verdict. C'est clair que quand on lit ça, c'est voyons comment ça se fait. Mais il faut comprendre que c'est une réaction en chaîne.
Oui. Est-ce que ça arrive souvent qu'on écarte la preuve comme ça parce qu'il y a d'une manière ou d'une autre? Puis loin de moi l'idée là, de mettre tout le blâme sur les policiers, là, mais est-ce que ça arrive souvent, ça, qu'on est obligé d'exclure de la preuve parce qu'il y a eu une entorse quelque part dans des règles qui sont, j'imagine, assez strictes?
Ben oui. Dans le cas de la petite. Beaucoup de preuves ont été, la preuve en fait a
c'est
été complètement
exclue. Ouais.
Le juge a complètement exclu la preuve de tous les policiers dans le cas de porno juvénile, dans tous les cas, on a parlé d'hameçonnage, tout ça. Il n'y a pas personne qui est à l'abri, puis là, ça va dépendre. On faut attendre de dire, OK, là, ce que les jurys ne savent pas, parce qu'évidemment, un procès aux assises, c'est il y a des arguments qui sont plaidés à l'extérieur. Donc, les jurys ne sont pas au courant. Les jurys ont la preuve, ont les points de droit qui vont leur être adressés, ils ont le non-verbal, ils ont plusieurs choses qu'ils vont juger, qui vont avoir à dire ben, coupable ou non coupable, puis c'est toujours hors de tout doute raisonnable. C'est que pour eux, qui dit vrai, puis est-ce que ça se peut que ça soit gris? Parce que des fois c'est blanc, des fois c'est noir, mais des fois c'est gris, puis là, ben, le hors de tout doute, faut que les amène dans le... C'est-à-dire pas dans le gris, mais le noir. Faut vraiment que ça soit noir. Oui, c'est vrai. Oui, il l'a fait. Oui, elle l'a fait ou non, elle l'a pas fait. Il n'y a pas entre les deux un petit doute, puis il faut que les juges, les jurys s'entendent. C'est toujours compliqué, mais les policiers, c'est rendu compliqué. Même moi qui le fais encore, qui travaille encore au civil, puis parfois pour des autorités, des poursuivants, ben, faut que tu fasses vraiment que tu fasses attention. Il y a énormément de jurisprudence. La jurisprudence, faut être prudent. Faut vraiment appliquer, est-ce qu'on a le temps? Puis dans le cas d'une poursuite immédiate, il y a un meurtre, une scène de crime, c'est horrible. Ben, tu sais, il y a toujours cette question-là, et les policiers sont pas à l'abri d'erreurs. Là.
Mais non.
C'était pas à l'abri d'erreurs.
Évidemment pas, puis des erreurs, mais ils s'en commettent à tous les niveaux. Là, on parle de cette preuve-là qui a été recueillie, mais dans le même cas, il y a également une grosse partie du premier interrogatoire avec Mme Manceau, l'accusée dans ce cas-ci, qui a été complètement écartée. Puis, je vous avoue, j'ai quand même bondi, là, M. Lorient, en disant ça, parce que là, on explique que la sergente détective là, qui était responsable de cet interrogatoire-là s'est mise à comparer l'accusée de monstre, de tueuse de sang-froid qui aime torturer les gens. Puis après ça, elle lui demande, lorsqu'elle réclame son droit de silence, d'arrêter de parler de son avocate, lui refuse d'aller aux toilettes. On dirait, même moi qui n'ai pas policier ou qui ne l'a jamais été, M. Laurier, j'ai l'impression d'avoir écouté assez de films, assez de séries. On sait que ça ne représente pas la réalité, mais quand même, pour savoir que si tu as quelqu'un qui demande le silence, qui veut parler à son avocat, ben tu laisses cette personne le faire. Comment on explique une erreur qui semble aussi grosse que ça?
Ben, je vous dirais que moi, j'attribue ça à des tempéraments, des gens qui sont... puis ça dépend, c'est pas tout le monde qui va être fait pour ce type d'interrogatoire-là. Il y a la fatigue qui rentre en jeu, c'est un théâtre. Hein. Quand on... Je me souviens, j'avais suivi des formations avec M. Navarro du FBI. Ce qu'il nous montrait, c'est un théâtre. Il faut être patient, faut monter la tension, faut être capable pour obtenir des aveux dans les cas de crimes... passionnel comme ça, ou même il faut être capable d'augmenter l'attention sur le... Alors, c'est des techniques d'interrogatoire, parfois, qui sont mal interprétées ou mal exécutées. Est-ce que le droit à l'avocat, 5 minutes? C'est sûr que quand vous êtes devant quelqu'un, vous lui donnez son droit à l'avocat, pendant 15 minutes, il va se fermer. Il va revenir, il va fermer, je te dis rien. Mon avocat me dit. Puis vous posez 3-4 questions, pendant les générales, les gens vont recommencer. C'est du temps pas qu'on perd, mais c'est du temps quand vous êtes de l'autre bord de la table, ben, il faut reprendre ça. Tu vas voir l'avocat, vas-y. Tu vas aller aux toilettes, vas-y. Ça durera le temps que ça durera. Il y a des interrogatoires qui peuvent durer 12 heures, qui peuvent en durer 14. Il y a des gens qui vont dire, vous interrogez un motard, j'ai rien à dire, je vais retourner en cellule. Vous pouvez pas le contraindre à être là, mais c'est pas... les suspects ne sont pas obligés de parler. Ça c'est une règle connue. Maintenant, ce que le juge en décrit, ben, et puis si c'est une preuve vidéo en plus, ben, les jurys vont pouvoir apprécier ce que le juge déclare à propos de cet interrogatoire-là. Alors là, à la fin du procès, si les policiers sont mal faits, on va toujours avoir les internes, les policiers qui font le travail à l'interne, au niveau de la discipline, il peut avoir aussi la déontologie, à la limite, il peut avoir au niveau criminel si les gens étaient mal intentionnés, ce que je crois pas. Là, les policiers sont là pour faire leur travail, mais c'est pas toujours égal.
Non, c'est pas...
c'est pas des robots.
Non, c'est pas des robots, puis c'est pas toujours facile, vous le dites, là, de faire face à des gens qui sont des potentiels meurtriers, agresseurs, abuseurs. Je pense que des fois, le tempérament peut jouer pour beaucoup. C'est pas des robocops là, qui sont dans notre société. Paul Laurier, vous êtes un ex-policier, justement, de la Sûreté du Québec, président de la firme Vigitech. Merci beaucoup d'avoir été là.